We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur We Do Biz pour cette première émission, les rendez-vous du recrutement. Ici Sandrine Chauvin, responsable de la rubrique carrière du site capital.fr. Cette semaine, nous aborderons la question qui torture tous les recruteurs, comment trouver le bon candidat et éviter la fameuse erreur de casting. Et c'est une experte qui nous répond, Preciada Amouyal. Bonjour Preciada.
Bonjour Sandrine.
Donc, vous avez monté un cabinet de recrutement un peu particulier, Job Réseau. Votre métier est d'organiser des speed recruiting. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai monté un cabinet il y a un peu plus d'un an maintenant qui consiste à convier gracieusement des recruteurs à se rendre dans des événements que j'organise au sein d'hôtels qui sont atypiques sur Paris. Je les invite gracieusement à venir pour participer donc, à une nouvelle tendance du recrutement qui est de pouvoir recevoir les candidats de manière assez rapide, en face à face, sur un modèle de speed dating classique que nous connaissons tous. Je leur demande donc en amont une fiche de poste grâce à laquelle moi je vais pouvoir trouver des candidats, en convoquer et leur en présenter en moyenne 5 à 8 durant l'événement. Ça dure 2 heures, c'est assez rapide et libre ensuite au recruteur de donner une suite à ce face-à-face avec un process qui continue de manière traditionnelle.
Et combien de temps dure justement ce face-à-face?
8 minutes. Le candidat a 8 minutes pour convaincre le recruteur de continuer le process de recrutement de manière traditionnelle dans ses locaux.
Donc 8 minutes, c'est très court hein, par rapport à un entretien d'embauche classique.
Tout à fait.
Et on dit souvent que ce sont les 3 premières minutes qui comptent lors d'une rencontre.
Voilà.
Est-ce que c'est le cas? Comment on peut juger quelqu'un justement sur
Alors, c'est le cas. Disons que les postes que nous sélectionnons sont des postes commerciaux, puisque ces 3 minutes permettent de déterminer une pugnacité du candidat, un esprit de synthèse, etc., qui sont nécessaires dans le cadre de son travail au quotidien. Donc finalement, ce speed recruiting est plutôt adapté aux fonctions commerciales où l'attitude et l'esprit de synthèse est primordial pour pouvoir convaincre justement donc, le recruteur qu'on est capable d'en faire autant avec le client. Voilà.
Et par contre, avant d'organiser vos speed recruiting, j'imagine que vous sélectionnez minutieusement les candidats.
Tout à fait.
Comment procédez-vous?
Alors, la mise en relation se fait uniquement par téléphone. Nous menons des pré-entretiens téléphoniques grâce à des prérequis que nous aurions établis avec le client. Nous validons tous ces prérequis et ensuite nous présentons cette sélection à notre client en amont pour que lui puisse relire et nous valider si les profils l'intéressent ou pas, c'est-à-dire est-ce que nous convoquons telle ou telle personne à l'événement. Donc, nous faisons plusieurs envois successifs. Chaque envoi se fait donc de manière anonyme au niveau du CV grâce à des acronymes, de première lettre du nom, de première lettre du prénom. Et il nous dit oui, cette personne intéresse, non, celle-ci ne correspond pas à notre axe de recherche. Et on continue jusqu'à arriver à 5-8 personnes qui seront convoquées pour l'événement à jour J.
Donc ça veut dire qu'il y a des critères préétablis.
Tout à fait.
Et comment vous établissez ces critères?
Alors, écoutez, par exemple, pour une fonction commerciale, on nous demande pour des postes, par exemple en finance, des profils qui sont assez stricts, à savoir donc un bac plus 5, puisque beaucoup sont normés au niveau de l'AMF, etc. au niveau CIF, ce sont des normes telles que des normes ISO où on demande un bac plus 5 minimum pour accéder aux fonctions commerciales, donc fonctions cadres. On nous demande 3 à 5 ans d'expérience minimum et aussi à distinguer si par exemple le commercial doit être un chasseur ou un éleveur. Un chasseur, c'est quelqu'un qui va créer son propre portefeuille client, alors qu'un éleveur, c'est quelqu'un qui va simplement fidéliser le portefeuille clientèle existant. Et ça, c'est une grande distinction qui se fait en amont déjà au téléphone pour vérifier si la personne va correspondre aux besoins du poste en question.
Et moi, quand je suis à la tête de mon entreprise, comment je fais pour savoir si j'ai besoin plutôt d'un chasseur ou d'un éleveur?
Tout simplement, quand on est à la tête de son entreprise et que l'activité démarre, on n'a pas encore de portefeuille existant. On a besoin de quelqu'un qui va nous aider à développer l'activité. Et pour cela, il faut mener de la prospection, aussi bien terrain que téléphonique. Et là, on aura besoin d'un chasseur. Un éleveur va plutôt correspondre à une structure qui est déjà bien établie, qui a un portefeuille de clients existant et qui aura besoin de simplement pouvoir le fidéliser et pourquoi pas l'augmenter, mais de manière tout à fait naturelle.
D'accord. Donc, a priori, si je viens de lancer mon entreprise, j'ai plutôt besoin d'un chasseur.
Tout à fait.
Mais quand je le rencontre en entretien, comment je sais s'il est chasseur ou pas?
Alors,
ou éleveur,
est-ce que
c'est une question de feeling ou...
C'est une question de feeling et de volonté pour un commercial. Il y a des commerciaux qui démarrent, qui sont prêts à faire de la prospection aussi bien terrain que téléphonique, et d'autres commerciaux qui ont plutôt habitude de grandes structures et qui sont plutôt là, comme dans les banques. Vous voyez, votre conseiller clientèle dans une banque ne sera pas un conseiller dans un cabinet de gestion de patrimoine. Dans un cabinet de gestion de patrimoine, on a tendance à prospecter, développer, puisqu'on est payé à la commission uniquement, alors qu'en banque, on est plutôt un conseiller clientèle face à un portefeuille qui existe déjà. On remplace quelqu'un ou on donne suite finalement. Donc, un suivi qui avait déjà été réalisé.
Et lors de l'entretien, j'ai quand même des questions particulières à poser pour, pour vérifier justement dans quel état d'esprit
se situe. On va vérifier si le candidat sera prêt justement à partir de zéro, aucun client, donc passer des semaines, on va dire même des mois, des 2 ou 3 premiers mois à prospecter, à aller au rendez-vous, acquérir cette clientèle, faire ses preuves, son chiffre d'affaires. Et celui-ci est parfois déterminant pour après obtenir des paliers dans les variables et qui vont peut-être lui permettre de rentrer après dans son objectif de salaire.
Voilà. Et est-ce qu'il y a des points clés à vérifier? Je pense par exemple au chiffre d'affaires qu'il a déjà pu développer ou son niveau de diplôme.
Voilà.
Ou...
On peut demander par exemple sur quel portefeuille il se situe. Donc par exemple en termes de clients grand compte, si on est sur une clientèle grand compte, combien de clients est disposé? Un portefeuille de 20, 30 ou 40. Et au niveau du chiffre d'affaires, quel a été le chiffre d'affaires réalisé et quel était l'objectif en pourcentage atteint pour ce commercial? Puisque sur les CV des commerciaux, en général, beaucoup de chiffres sont évoqués. Ensuite, à nous de vérifier donc, la véracité de ce qui est noté et aussi concrètement, est-ce que c'est possible de le faire? Voilà. Après, bien sûr, notre client va nous le dire puisque lui sera dans la fonction. Il va pouvoir vite nous dire si ces chiffres sont véridiques ou pas. Voilà.
Et après, le modèle du speed recruiting, c'est quand même de convaincre en 8 minutes. Donc, ça veut dire c'est très court. Est-ce que finalement, vous êtes convaincu que l'intuition, c'est le maître mot en matière de
recrutement? C'est le maître mot. Le but du speed recruiting, c'est voir un maximum de personnes en peu de temps et de pouvoir déterminer grâce à son feeling et aux questions qu'on aura au préalable préparées si le candidat peut correspondre à un candidat que lui-même aurait sélectionné pour un entretien classique d'une heure toutefois. L'avantage, c'est que nous présentons l'activité au candidat en amont. Une fiche de poste est demandée, mais également une présentation de la société qui est adressée au candidat la veille de l'événement. Donc finalement, les 8 minutes sont dédiées uniquement au vif du sujet, à savoir le poste, motivation et compétences. Voilà.
Donc ça veut dire aussi qu'il faut avoir vraiment une fiche de poste très détaillée avec les objectifs, les missions à réaliser.
Tout à fait. La fiche de poste est assez détaillée. Le fait que nous donnons aussi le site internet et la présentation en complément sont des éléments qui sont déjà assez importants. Et après, libre au candidat de poser durant les minutes qu'il a les questions qui lui paraissent indispensables pour vérifier si le poste peut lui correspondre. Et inversement pour le client, à lui de vérifier si le candidat donc sera même de pouvoir correspondre à son esprit d'entreprise.
Vous avez un exemple de question que le recruteur peut poser justement au
oui,
candidat?
Oui, tout à fait. On a les grandes questions d'agence à taille humaine. Vous savez, il y a beaucoup de structures qui recherchent des commerciaux mais qui démarrent. Donc on a besoin de quelqu'un qui sera adapté à cette polyvalence nécessaire quand on est dans une petite structure et non pas quelqu'un qui est habitué à des process ou qui travaille en mode projet, ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup de sociétés qui sont encore dans cet esprit on fait tout nous-mêmes, vous partez de la prospection, vous assurez et finalement le rendez-vous client, le recueil des cahiers des charges, le niveau technique également. Et donc finalement, on est commercial et en même temps technique. Donc on est technico-commercial et parfois, ce n'est pas du tout des compétences qui sont adaptées à d'autres personnes qui veulent faire simplement la partie commerciale et tout ce qui est technique, ils ne s'en occupent pas. Donc oui, ça peut...
Et comment on fait pour justement définir cette fiche de poste, sachant que dans les petites entreprises, il n'y a pas de gestion des ressources humaines, donc il n'y a pas forcément de descriptif de poste en tant que tel. C'est plutôt, c'est ce qu'il y a à faire.
Pour le speed recruiting, c'est-à-dire que la personne va en quelques minutes déjà donner une image de la société qu'il représente et... En général, le candidat comprend très bien dans quel état d'esprit il va arriver et surtout dans quel type d'agence ou type de structure il va atterrir. Il va savoir si la personne va être amenée à faire lui-même le café pour recevoir un client ou aller se déplacer directement dans une zone industrielle. Il saura très bien qu'il n'y aura pas quelqu'un pour le seconder, pour le faire. Il n'a pas le choix, il n'y a que lui.
Et à l'issue de 3-4 minutes comme ça, si on ne le sent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vaut mieux abandonner le recrutement et quitte à ce que le travail ne se fasse pas ou recruter quand même pour qu'il y ait quelqu'un sur le poste et que la société avance?
Non, ne pas faire. Je pense que le feeling, c'est un point d'étape. Terminant, mais pas uniquement, puisque parfois on n'a peut-être pas de feeling avec la personne, mais la personne a les compétences techniques nécessaires. Là, j'ai un client, c'est le cas, c'est quelqu'un qui est fournisseur européen de solutions de centre de contact, qui a rencontré deux candidats, il y en a un qui lui plaît énormément au niveau de la personnalité, mais les compétences techniques sont moindres, et un qui a toutes les compétences techniques, mais le feeling n'y est pas. Mais comme il me le dit, finalement, sur le terrain, c'est les compétences techniques qui priment. Donc on a besoin, finalement, même si on est dans un choix qui est assez difficile, un dilemme, on prime les compétences techniques.
Et Preciada, vous êtes vous-même à la tête d'une petite entreprise. Oui. Est-ce que vous avez été récemment amenée à recruter?
Alors écoutez, j'ai pas recruté. J'ai eu la chance de pouvoir monter ma société accompagnée d'une stagiaire en alternance qui est avec moi depuis plus d'un an. Qui m'a aidé à développer l'activité, mais bon, moi je suis dans cette totale polyvalence à tout niveau, aussi bien en termes de prospection clientèle, sourcing candidat, mise en place des événements, et cette stagiaire m'aide énormément.
Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de comment vous appliquez à vous-même tous les conseils que vous venez de donner?
Alors, écoutez, à moi-même, surtout le feeling, moi, je pense que menant en plus les entretiens de manière tout à fait simplement téléphonique, je pense que le feeling fait partie intégrante de mon activité. Et c'est moi qui détermine quels sont les envois que je vais faire à mon client. Donc, finalement, mon feeling va être en amont de tout ce qui va se passer par la suite.
D'accord. Ouais. Et pour conclure, Preciada, je vous propose de vous livrer un petit jeu habituel qu'on va essayer de faire à chaque rendez-vous du recrutement.
D'accord.
Est-ce que vous avez un dicton ou une anecdote qui résume finalement votre philosophie ?
Écoutez, ma philosophie, c'est surtout le networking, puisque c'est vraiment l'activité principale de mon cabinet. Donc, c'est tisser son réseau, c'est d'aller vers les autres. La seule citation que je pourrais vous citer, c'est celle d'un sketch de Coluche qui date de quelques années déjà, mais qui disait très bien « Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser ». C'est-à-dire que d'aller vers les autres, créer son réseau, c'est primordial maintenant pour finalement évoluer en termes de recrutement, puisque répondre aux annonces ne suffit plus. Les recruteurs reçoivent énormément de candidatures, qu'elles soient spontanées ou réponses annonces. Donc l'idée de créer un réseau personnel va nous aider finalement, le bouche à oreille va nous aider à trouver un emploi plus facilement. Mais il faut aller vers les autres, c'est très important.
Et vous utilisez quels moyens ? Est-ce que c'est les réseaux sociaux sur Internet ?
Voilà, mon activité consiste uniquement à sourcer des candidats sur des réseaux sociaux et sur les clubs business after work. Toutes les soirées, on peut rencontrer énormément de personnes qui sont très motivées et qui ne seront pas forcément présentes sur les job boards traditionnels, puisqu'elles ne sont pas en veille active, mais intéressées à tisser donc des relations et pourquoi pas par la suite réfléchir à des postes qu'elles n'auraient pas du tout envisagés au préalable.
Donc ça, c'est ce que vous conseillez aux patrons de PME ?
Tout à fait, c'est ce que je conseille. Il faut évoluer maintenant sur les tendances du recrutement. On n'est pas seulement sur des modèles de job board avec des annonces qu'on paye qui sont assez onéreuses en plus pour des personnes qui démarrent. Donc autant utiliser les réseaux sociaux et puis trouver des personnes qu'on ne trouvera pas. Donc de manière traditionnelle, on sera en complément d'un recrutement en interne.
Et justement, à ce moment-là, le feeling joue à plein.
À plein temps. Le téléphone, c'est le feeling. Hein. C'est le allô, déjà le premier allô, les deux premières secondes, oui. Est-ce que vous êtes toujours en recherche d'emploi, oui ou non ? Voilà, ça joue énormément.
Preciada, merci pour tous ces conseils. Et chers auditeurs, à la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous du recrutement.
Merci, sur WeDoBiz. Merci, au revoir.